vous inviter à prendre votre Bible. Si vous n'avez pas une Bible avec vous ce matin, vous avez reçu une petite feuille à la porte qui contient presque tous les versets que nous allons voir ensemble ce matin. Moi, je sais une chose, c'est que cette Bible est vraiment inspirée de Dieu. J'y crois. Est-ce qu'il y a des gens qui croient à cela? Je sais que dans notre société, il y a de moins en moins des personnes qui croient, mais peut-être un jour, on pourrait faire même des études pour vous donner encore plus d'évidence pourquoi on peut être sûr et certain que cette Bible est vraiment inspirée de Dieu. Mais ce matin, on va la prendre et on va faire une petite déclaration qu'on aime faire ici à la vie comblée, parce que ce qu'on dit avec la bouche en croyant du cœur s'accomplit. Okay? Et moi, je veux pas juste donner un sermon, et puis vous dites, oh wow, ça c'est le fun, et puis vous partez, et sans être transformé. Moi, je crois que quand on vient à l'église, c'est pour grandir. C'est pour recevoir les choses dans le but de les mettre en pratique, pour que nos vies soient meilleures à notre départ qu'à notre arrivée. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Bon, donc, et savez-vous que on peut avoir les mêmes personnes écouter le même message, et il y a une personne qui va complètement changer, transformer, et l'autre personne que, bon, ça reste un status quo. Pourquoi? C'est quoi la différence? Des fois, c'est juste une question de la foi et notre manière de recevoir la parole. C'est ça que l'Hébreu dit, en fait. La même parole qui nous a été prêchée à eux, avait dit, mais ils n'ont pas mélangé la foi avec. Donc, ce matin, je vous invite à mélanger votre foi avec la parole que nous allons entendre, et ça va vous transformer. Donc, on va dire ceci. Voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu. Je ne serai jamais plus pareil. Mais je serai changé et transformé de gloire en gloire dans l'image de Jésus. Amen. Est-ce que vous le croyez? Remercions le Seigneur pour sa parole ce matin. Merci Seigneur. Amen. Donc, vous savez qu'on a commencé une petite série il y a déjà quelques semaines, comme un arbre planté près des eaux. Et dans le fond, on parle de comment atteindre la maturité et la stabilité dans un monde qui est bousculé et des fois même bouleversé. Ça, c'est notre désir, n'est-ce pas? Combien de vous, vous désirez être mature et inébranlable dans le Seigneur? Bon, on a les instructions. On a regardé les choses dans le premier psaume et, en plus, on a regardé les choses en Jérémie 17. Et ici, en Jérémie 17, c'est un peu notre texte clé pour cette série. Et j'aimerais relire à partir de verset 5 et pour qu'on puisse se remettre dans le flot de ce message. Verset 5 dit, « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. » Tout le monde dit un misérable. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent être misérables? Non, j'espère que non. Mais vous savez que le mot « misérable » des fois, c'est traduit buisson. C'est un autre mot pour un buisson, ok? Et on a même ici cette buisson, ce misérable qui habite dans des places arides. Il ne voit pas venir le bonheur, la parole de Dieu dit. Et il y a beaucoup de chrétiens même qui, on dirait, sont un peu comme ça, desséchés. Quand le vent arrive, ils sont facilement emportés. Il n'y a pas de racines et ça bouge avec les circonstances. Et c'est vraiment pas une vie agréable dont le mot misérable, je crois, est à propos. Vous êtes d'accord avec moi? Donc ça, c'est l'exemple et l'image de quelqu'un qui met sa confiance dans la chair et qui ne suit pas les instructions du Seigneur. Mais si on continue, on peut regarder la suite de ce verset, en verset 7, « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux. » Tout le monde dit, « Je suis comme un arbre planté près des eaux. » Okay? Et on continue, « Et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit pas la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Donc, si on regarde, on a une autre image. Ça, c'est toute la verdure. Il y a de la vie. Il y a des arbres qui sont plantés près de ce courant d'eau. On voit qu'il y a des racines. C'est des choses qui sont beaucoup plus agréables. Laisse-moi vous dire que la vie avec le Seigneur est beaucoup plus agréable que la vie sans le Seigneur. Et je sais qu'il y en a ici qui peuvent témoigner de cela, n'est-ce pas? Moi, je sais aussi. Jusqu'à l'âge de 9 ans, je connaissais pas le Seigneur. Et mes parents connaissaient pas le Seigneur. Mais puis, mes parents se sont divorcés. On a vécu des moments turbulents et difficiles. Mais heureusement, un an après, ma mère a donné sa vie au Seigneur. Et j'ai vu le changement. Elle arrive à la maison, et au lieu de la dépression, au lieu d'avoir un nuage de ténèbres au-dessus de sa tête, elle avait la joie, elle avait la paix, elle avait la patience, elle rayonnait, elle dégageait l'amour, et je dis, waouh, quelque chose s'est passé. Donc moi j'ai vu, je suis témoin oculaire de la puissance de Dieu qui peut transformer une vie, je l'ai vu chez ma mère, et j'ai donné ma vie au Seigneur aussi à l'âge de 10 ans. Sauf que, le problème, j'ai jamais pris le temps de m'enraciner dans les choses de Dieu. Et c'est pourquoi, quand les choses allaient mal, ou quand il y avait certaines tentations, parce que j'étais pas ancré, j'étais comme ce buisson desséché, j'étais comme ce misérable dans le désert, je me laissais emporter ici et là, et jusqu'au jour où je commençais à me révolter contre Dieu au début de mon adolescence, ou vers l'âge de 15 ans. Heureusement, ça n'a pas duré longtemps. Heureusement, à cause des prières de maman et des prières des autres personnes qui m'aimaient, le Seigneur a saisi ma vie, et juste avant mon 17e anniversaire, j'ai eu une expérience avec le Seigneur qui m'a marqué pour le restant de mes jours. Et depuis ce jour, moi je peux dire heureusement que depuis 1984, j'ai jamais plus rétrogradé. Merci Seigneur. Mais pourquoi? Parce que la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu m'a aidé à étendre mes racines vers les courants d'eau. Est-ce que j'ai jamais dit, ok, juste pour que vous sachiez, que depuis 1984, j'ai jamais péché ou fait des choses de pas correctes. J'ai dit, j'ai jamais rétrogradé. Vous savez, il y a une différence? Parce que des fois, le cheminement avec le Seigneur, on a des hauts et on a des bas, mais quand même, on devrait marcher sur un terrain qui est solide avec Dieu. On ne devrait pas avoir une vie chrétienne qui est yo-yo. On devrait avoir une progression qui est quand même solide. Amen? Il y a une différence entre un moment de faiblesse et la rébellion aussi. Dieu peut travailler, je ne sais pas pourquoi je dis cela ce matin, mais c'est important que vous sachiez, Dieu peut travailler avec vos faiblesses, mais il ne peut pas travailler avec votre révolte et votre rébellion. Amen? Bon, ça, c'est une petite parenthèse. Je crois que ça vient de l'Esprit de Dieu. Quelqu'un avait besoin de ça ce matin. Mais savez-vous qu'on parle d'être enraciné dans la parole de Dieu. On parle d'être comme un arbre planté près des eaux. Et qu'est-ce qu'on a vu en Jérémie 17? C'est qu'il y a ces caractéristiques de ces personnes, matures et stables. On a déjà parlé un peu de cela. On a dit qu'il n'aperçoit pas la chaleur quand elle vient. Et on a déjà parlé une semaine de comment rester calme sous la pression. Vous vous rappelez de cela? N'oubliez pas la tondeuse. Tout le monde s'en souvient de cela. On a parlé la semaine passée de « et son feuillage reste vert ». On a dit que c'est dans ma nature de démontrer l'amour de Dieu, avoir la patience, avoir la paix et d'avoir toutes ces caractéristiques de la présence de Dieu dans ma vie, c'est dans ma nature. Tout le monde dit, c'est dans ma nature d'aimer Dieu et d'aimer les autres. On a parlé de cela la semaine passée. Mais ce matin, on va continuer et on va voir une autre caractéristique de ces arbres plantés près des eaux. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Tout le monde dit, je n'ai pas de crainte. Savez-vous que la volonté de Dieu pour vous et pour moi, c'est de pouvoir mener une vie sans crainte, sans aucune crainte. La seule crainte qui est correcte pour un enfant de Dieu, c'est la crainte de l'Éternel. Et la crainte de Dieu, c'est pas le même genre de crainte. La crainte de Dieu, c'est plutôt un respect et une révérence, parce que Dieu est grand et il est redoutable. Mais on n'a pas peur de Dieu parce qu'on croit qu'il va nous faire mal ou il va être méchant avec nous. C'est pas ça. On craint Dieu, et parce qu'on craint Dieu, on n'a plus d'autres craintes dans notre vie. La peur est abolie. La crainte est complètement chassée de notre esprit et de nos pensées et de notre être. Ça, c'est qu'est-ce que Dieu veut pour nous. Et on va voir cela aujourd'hui, que la peur n'a aucune place dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent voir cela? Bon, réveillez-vous, regarde votre voisin et dis, ça va être le fun ce matin. Ouais. Comment vivre sans crainte? Premièrement, je veux vous donner plusieurs raisons pourquoi la peur doit être bannie de notre vie. Première chose qu'on va voir, on va dire en général, c'est que la peur ouvre la porte au trouble. Savez-vous que si vous vivez dans la peur, dans la crainte, vous invitez les problèmes à se manifester dans votre vie? On va voir cela, même Job, il a dit, « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. » Moi, c'est mon opinion, mais je crois que il y a des choses qui sont arrivées à Job parce que il avait peur aussi. Et si on peut reprendre cela, donc il y a plein de choses qu'il faisait, il agissait avec une certaine crainte. Même il offrait des sacrifices au cas où que mes enfants ont fait des choses. Il n'y avait pas des choses réelles, mais on voit que c'est un homme qui était inquiet pour sa famille aussi. Donc, mais c'est pas, aujourd'hui, le but du message, c'est pas de regarder toutes ces choses à propos de Job. Mais qu'est-ce qu'on voit? C'est un principe. On sait que notre ennemi, l'adversaire, il agit par la peur et par la crainte. Il essaie de nous faire peur. Et s'il peut nous faire peur, il peut nous contrôler. Alors? Et c'est un fait. Hein? Même si on parle de n'importe quoi, si on parle dans le domaine physique, quelqu'un qui a peur de tomber malade, savez-vous quoi? Souvent, il tombe malade. Vrai ou pas vrai? Ça, c'est même pas un principe, si vous voulez, qui est juste spirituel. Demandez aux médecins combien des maladies sont psychosomatiques. C'est ça, il y a des gens qui ont peur d'une maladie et les symptômes de cette maladie commencent à se manifester. C'est pourquoi des fois on peut donner les pilules de rien et les gens vont commencer à guérir parce que c'est dans la tête. Vrai, pas vrai? Donc la peur ouvre la porte aux troubles et toutes sortes de troubles. On parle de la domaine physique, mais il y a d'autres domaines aussi. En fait, je vais vous donner quelques exemples. La crainte de la mort nous retient dans la captivité. La crainte de la mort. Moi, je pense que s'il y a une chose que l'homme, quand je parle de l'homme, je parle de l'être humain craint, c'est la mort. C'est un peu c'est une peur universelle, n'est-ce pas? La plupart des personnes ont peur de mourir. Et on voit dans les Écritures ici, en Hébreux chapitre 14 et 15, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qui délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, soulignez cette phrase, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Savez-vous quoi? Si vous avez peur de mourir, l'ennemi, l'adversaire, il peut vous garder comme esclave. Qu'est-ce que je veux dire? Parce qu'il y a plein de choses que peut-être le Seigneur veut que vous fassiez, mais vous avez peur, ça peut être dangereux, je pourrais perdre ma vie. Et parce que vous avez peur de perdre votre vie, vous bougez pas et vous êtes dans le fond captif à la volonté de votre adversaire. Plein de choses, plein d'exemples. Moi, j'ai souvent dit, et j'avais besoin d'une révélation de cela, quand on parle de la guérison divine, moi, je dis souvent aux gens, si vous avez peur de mourir et votre motivation primordiale pour la guérison, c'est de ne pas mourir, vous allez avoir de la difficulté à recevoir la guérison. Parce que votre motivation pour la guérison ne devrait pas être, oh, je veux pas mourir, je veux pas mourir. Ça devrait être, Je veux faire la volonté de Dieu. Je veux rester ici sur la terre en santé pour pouvoir servir ma famille, pour pouvoir être une source de bénédiction pour mon église et pour le monde et pour accomplir la mission que Dieu m'a confiée dans la vie. Et souvent, j'ai vu des personnes qui ont réglé ce problème de peur et cette crainte de la mort et ils reçoivent la guérison. Parce que qu'est-ce qu'on va voir, hein, c'est que la peur et la foi sont les forces opposées. On ne peut pas avoir la foi et avoir peur en même temps. Allô? C'est Jésus qui a dit, il a dit ça à Jairus. Vous vous rappelez de Jairus? Jairus, sa fille de 12 ans était malade, puis elle est morte, et le mauvais rapport vient, ils ont, oh, on ne trouve plus le maître, ta fille est déjà morte. Et qu'est-ce que Jésus a dit? N'aie pas peur, crois seulement. Tout le monde dit, crois seulement. Et c'est exclusif. On a besoin d'arriver à la place où on ne fait que croire. On ne peut pas croire et être inquiet en même temps. Allô? On ne peut pas dire, je sais que Dieu va me protéger en disant, oh, mais qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Il y a quelque chose qui ne marche pas dans cette histoire. Vous comprenez? C'est pourquoi il ne faut pas avoir peur, il faut croire seulement. Tout le monde dit, croire seulement. Et la première chose qu'on voit ici, c'est que la crainte de la mort nous retient dans la captivité. Donc, il faut avoir l'attitude comme l'apôtre Paul. Pour moi, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Il faut savoir que la pire chose qui peut arriver, dans un sens, c'est que quelqu'un pourrait tuer mon corps physique, c'est-à-dire qu'il m'envoie au ciel en avance. Je vais me réveiller dans la gloire de Dieu et je vais passer l'éternité dans la présence de mon Sauveur, mon Seigneur. Je n'ai pas besoin de craindre la mort. La mort m'est un gain. En fait, Paul a dit, je ne sais pas quoi faire. J'ai le désir de partir, être avec le Seigneur, ce qui est de beaucoup le meilleur, mais je sais que rester ici, ça serait plus fructueux pour vous, donc je vais rester. Encore, notre motivation, ce n'est pas de recevoir de Dieu pour éviter la crainte. On doit avoir une force positive qui va berner la crainte. Et on va parler de cette force positive davantage dans quelques minutes. Bon, deuxième chose ici, la crainte de la lacune donne place à l'inquiétude. Il y a des gens qui craignent la mort. Il y a d'autres personnes qui sont pas, ils n'ont pas peur de mourir, mais ils ont peur de manquer de quelque chose dans la vie. Ils ont peur de manquer de quoi satisfaire leurs besoins. Ils ont peur de manquer de nourriture, ils ont peur de manquer l'argent nécessaire pour payer les factures, ils ont peur de ne pas avoir des vêtements, de ne pas avoir les choses essentielles à la vie naturelle. Et cette peur et cette crainte causent une inquiétude. Est-ce que vous savez de quoi je parle? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais vécu l'inquiétude? Je pense que c'est une expérience universelle qu'on a tous, n'est-ce pas? Mais regardons qu'est-ce que Jésus a dit ici dans ce verset à propos de cela. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous et de quoi serons-nous vêtus. Et on voit partout dans le Nouveau Testament, en Philippiens, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, par des prières et des supplications, faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute connaissance, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Donc, l'inquiétude, savez-vous quoi? J'ai quelque chose à dire, c'est simple, c'est peut-être pas ce qu'on veut entendre, mais s'inquiéter, c'est un péché. Parce que si on s'inquiète, c'est parce qu'on est en train de dire au Seigneur, dans le fond, je te fais pas confiance, j'ai pas assez confiance que tu vas vraiment prendre soin de moi. Donc, on doit bannir l'inquiétude. Jésus a dit, regarde les oiseaux. Regarde les lits des champs. Regarde, votre Père, il prend soin d'eux. Et si Dieu prend soin des lits des champs qui sont ici aujourd'hui et demain sont disparus, penses-tu qu'il ne va pas prendre soin de toi? Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'un oiseau? Hein? Regarde quelqu'un d'autre et dis, vous valez beaucoup plus qu'un oiseau. Wow, phew, qu'est-ce que tu as appris à l'église aujourd'hui? Je vaux plus qu'un oiseau. Amen. Puis on continue, la crainte de l'échec nous rend infructueux. La crainte de l'échec nous rend infructueux. Combien de gens ont peur d'échouer? Ils ont peur d'essayer quelque chose, de ne pas être à la hauteur du tâche et de ne pas être capable de réussir. Et qu'est-ce qu'ils font? Rien. Des personnes qui ont de la difficulté à prendre des décisions, si vous êtes une personne indécise, vous avez de la misère à prendre une décision, des fois c'est pour les petites choses, des fois c'est pour les grandes choses, si ça vous prend 45 minutes pour choisir au restaurant, je ne sais pas, non, des fois c'est juste parce que... Mais j'ai peur que si je choisis la mauvaise affaire... Mais la crainte de l'échec nous rend infructueux. Parce que savez-vous quoi? Choisir de ne rien faire, c'est quand même un choix. On va le dire ensemble. Choisir de ne rien faire, c'est quand même un choix. Je choisis de ne rien faire. Et si je choisis de ne rien faire, j'ai déjà échoué. Je vais rien faire parce que je veux pas échouer. Alors, c'est déjà un échec. Vaut mieux essayer des choses, des fois faire des erreurs, apprendre de vos erreurs. Si vous tombez, vous tombez en avant, comme on dit. Et quand vous vous redressez, vous êtes quand même avancé. Amen. Je pense toujours à Thomas Edison. Aujourd'hui, on a des ampoules, on a les lumières dans les maisons. On peut juste flipper le switch et que la lumière soit et la lumière est. Mais savez-vous que quand Thomas Edison il essayait de trouver une solution pour le filament, le fil à l'intérieur de ses ampoules, qui pourrait pas brûler trop vite, etc., il a fait, je pense, environ 50 000 expériences. Et après 50 000 expériences, ça n'a toujours pas marché. Et son assistant, même un jour, dit, « Mais Thomas, n'es-tu pas découragé? Regarde, ça fait déjà 50 000 fois qu'on a essayé des trucs et ça marche pas. » Il a dit, « Non, je suis pas découragé. Moi, je sais. Maintenant, je connais 50 000 choses qui ne marchent pas. » Mais il a persévéré. Combien de personnes, après un échec, un problème, ils lâchent. Et ils deviennent infructueux. Et on voit dans la parabole des talents, vous vous rappelez, il y avait des personnes qui ont reçu un certain nombre de talents, mais si on continue ici le verset, le monsieur qui a reçu un talent, qu'est-ce qu'il a fait avec ça? Il est allé le cacher parce qu'il avait peur de faire la mauvaise choix et de ne pas faire la bonne chose. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Mais si tu lis plus tard dans le contexte, Jésus, il appelle ce serviteur un serviteur paresseux. Ouh, c'est pas ça que je veux comme réputation avec le Seigneur et vous? Mais c'est la crainte de l'échec qui nous rend infructueux. Puis on continue, la crainte des hommes nous paralyse. La crainte des hommes nous paralyse. Il y a des gens qui ont peur des hommes. Mais qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Qu'est-ce que les autres vont dire de moi? Qu'est-ce que les autres vont faire à moi? Et moi, je pense à la parole de Dieu qui dit, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? L'Éternel est ma lumière et mon salut. Que peut me faire des hommes? Encore là, on a besoin de craindre Dieu et pas craindre les hommes. Savez-vous quoi? Un jour, nous allons tous être devant le trône de Dieu. Et c'est pas vos voisins, ce n'est pas les membres de votre parenté, c'est même pas votre mari, votre femme, c'est pas votre employeur, c'est pas le premier ministre du Québec, c'est pas le chef de police, c'est personne qui va être assis sur le trône, sauf Jésus-Christ de Nazareth. Et combien de fois on est paralysé, on ne veut pas bouger en tant que chrétien parce qu'on a peur de qu'est-ce que les autres vont penser, dire ou faire. Allô, est-ce que vous êtes là? Et on a besoin de se libérer de cette peur et de cette crainte. On va voir comment dans quelques minutes, mais continuons. On voit ici Et notre crainte, la crainte de l'inconnu, nous fait manquer le meilleur. La crainte de l'inconnu nous fait manquer le meilleur. Combien de personnes, ils ont peur des choses qui sont des nouvelles choses. Et parce que c'est une nouvelle chose qu'ils ne connaissent pas, ils n'osent pas essayer. Je ne parle pas d'essayer n'importe quoi. Hein? Il y a certaines choses inconnues que c'est mieux de les laisser inconnues. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a certaines choses que j'ai jamais connues, j'ai pas le goût de connaître et je vais jamais connaître. Amen? Mais il y a d'autres choses que peut-être le Seigneur veut que je fasse. Mais combien de personnes? J'ai mis ici le verset, si on peut avancer sur le PowerPoint, et quand les disciples virent marcher sur la mer, quand Jésus est venu, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme, et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Ah! Mais rappelez-vous de cette histoire, tous les disciples étaient dans une barque. OK? Il y avait 12 hommes dans une barque, et Jésus vient marchant sur les eaux. Ils avaient tous peur, sauf quand ils ont su que c'était Jésus, il y avait juste un homme qui a dit, « Seigneur, si c'est toi, dis-moi de venir sur l'eau. » Pierre a osé quitter son zone de confort et faire quelque chose qu'il n'a jamais fait avant. Et tu dis, « Oh oui, mais à la fin, il commençait à couler. » Mais pas grave, au moins, il a marché sur les eaux. Et en plus, quand Jésus l'a pris par la main, ils sont tous les deux retournés sur la barque. Il a eu un moment de faiblesse où il commençait à couler, mais il a quand même fini l'histoire dans la victoire, n'est-ce pas? Mais la peur va vous garder dans le status quo. Et combien de personnes, savez-vous quoi? Il y a des personnes qui vont jamais voyager, jamais expérimenter certaines culture ou pays, et ils pourraient le faire. Mais parce qu'ils ont peur d'embarquer dans un avion, ils ne vont jamais le faire. Il y a des personnes qui ont peur d'embarquer dans les autos. Il y a des personnes qui ont peur de l'eau. Et donc, oh non, ils ne vont jamais même essayer d'apprendre à nager ou même prendre un bateau quelque part. Combien des choses que on peut expérimenter. Là, je vous donne des exemples banals dans la vie ici. Hein, il y a des personnes que, ouh, qu'est-ce que c'est ça? Ils vont pas oser essayer des nouvelles choses. Savez-vous que moi, j'ai donné la première sandwich de beurre à peanut à ma femme. Elle avait 17 ans, elle n'avait jamais mangé le beurre de peanut avec la confiture. Essaye ça, c'est bon. Soupe aux légumes aussi. Première fois. Mais quand elle avait 17 ans avant qu'on se marie, elle avait besoin de faire un voyage avec une chorale. Et donc, elle avait pris une décision. Moi, je vais essayer des nouvelles choses. Elle a dit, bon, tout ce que j'ai eu l'occasion d'essayer, comme parce qu'il y avait toutes sortes de nourriture et elle n'était pas habituée à manger, elle a dit, je vais essayer ça. Et savez-vous quoi? Elle a dit, waouh, c'est bon, j'aime ça! Mais vous pouvez passer toute votre vie en mangeant toujours le même toast blanc parce que le pain brun a l'air dégueulasse et je ne sais pas si je vais essayer ça, mais essayez ça, peut-être vous l'allez aimer. Peut-être non, mais au moins essayez. Là, je parle, comme je dis, des choses banales, mais il y a d'autres choses que le Seigneur va vouloir que vous fassiez peut-être dans la vie. Il va vous demander de témoigner. Mais je ne connais pas ça. Va vous demander de faire partie d'un certain ministère ou faire des choses que vous n'avez jamais faites. Dites, mais je connais pas ça. Mais osez essayer des nouvelles choses. Amen? Et vous allez avoir le meilleur. Alléluia. Je veux pas être comme les enfants d'Israël qui ont tourné en rond dans le désert pendant 40 ans. Ils ont manqué le meilleur à cause de la peur et la crainte. N'est-ce pas? Donc, on continue ici. En 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, nous avons un verset clé. « Car ce n'est pas un esprit de timidité, de lâcheté ou de défaitisme. » J'aime ça. Encerclez ces mots. Timidité, on va le dire ensemble. Timidité, lâcheté, défaitisme. Connaissez-vous des personnes comme ça? des personnes qui sont lâches, des personnes que sont les défaitistes. Oh, mais ça va jamais marcher. Oh, ça marche jamais cette affaire-là. Si vous avez cette attitude de défaitisme, de timidité ou de lâcheté, sachez que cela ne vient pas de Dieu. Dieu est un Dieu qui vous a donné un autre esprit. Dieu nous a donné un esprit de courage, d'amour et d'enthousiasme. C'est un esprit actif et aimant qui nous rend forts et aimants. Encerclez quelques-uns de ces adjectifs ici. Hein? Un esprit de courage. Encerclez cela. Comme on dit, Dieu m'a donné un esprit de courage, d'amour, d'enthousiasme. J'ai un esprit actif et aimant qui me rend fort et aimant. Alléluia. Il nous donne un jugement sain et une parfaite maîtrise de nous-mêmes. Ça, c'est les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ne devraient jamais être timides. Vous devrez oser faire des choses avec le Seigneur. Pas n'importe quoi. Je n'ai pas dit que vous avez besoin de devenir les casse-coups et faire des bêtises. Il y a certaines choses que c'est le manque de sagesse. Mais quand Dieu nous demande à faire des choses, et si, même si c'est inconnu, même s'il y a des hommes qui ne seraient peut-être pas d'accord, même s'il y a une chance qu'on pourrait échouer dans le naturel, on doit le faire quand même. Parce que Dieu nous a donné un esprit de courage, d'amour et d'enthousiasme. Amen. En Jean 4, 18 dit, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Soulignez cela, l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Donc si vous avez peur, sachez que le remède à toute peur, à toute crainte, c'est l'amour. Allô? Dieu vous aime. Et parce que Dieu vous aime, vous n'avez rien à craindre. Mais il faut savoir qui il est. Dieu est amour. Et l'amour parfait bannit la crainte. Amen. Donc regardons. Je veux terminer ici ce matin avec un verset de Psaume 27, verset 1 jusqu'à verset 6. C'est les paroles de David. Et j'aime ça parce que David... Je pense qu'on est tous d'accord que David, c'était un homme courageux. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Quand un jeune homme est prêt à faire face à un géant en déclarant en avance sa victoire, quand tous les autres hommes qui ont de l'expérience et des anciens combattants sont en train de trembler de peur, et quand tout le monde est convaincu que c'est une situation désespérée. Et ce jeune homme ose dire au roi, « Au roi, envoie-moi. Je vais prendre soin de cette affaire. J'ai déjà tué l'ours et j'ai déjà tué le lion et je vais faire la même chose avec ce gars-là. » On voit son courage. Mais d'où vient son courage? Je crois c'est parce qu'il avait quand même une révélation de l'amour de Dieu. Et on va lire ces paroles de David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis chancellent et tombent. On continue. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait quoi? Aucune crainte. Gloire à Dieu. Je lis cela, je dis, wow, Seigneur, je pense que j'ai encore de route à faire. Et vous? Je ne suis pas certain que je suis tout à fait rendu à la place, ou si toute une armée venait contre moi, et je savais que leur but, c'était de me tuer, que je serais sans aucune inquiétude ou crainte. Je pense que ça serait un combat de la foi pour moi. Mais regarde, mon cœur n'aurait aucune crainte si une guerre s'élevait contre moi. Je serais malgré cela, quoi? Plein de confiance. Ça, c'est qu'est-ce qu'on doit être. Et ça, c'est un homme qui n'est même pas né de nouveau. C'est un homme de l'Ancien Testament, mais qui a quand même connu le cœur du Père, le cœur de Dieu qui est amour. Amen. Ça, c'est mon désir. Et vous? Donc, on continue. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ici, en verset 4, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Souligne le mot habiter. Pour contempler, souligne le mot contempler, la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher, et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai, souligne ce mot, offrirai les sacrifices dans sa tente au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai, et tu peux souligner cela aussi, chanterai, célébrerai l'Éternel. Moi, je vois là-dedans quatre principes que je crois qu'on peut mettre en pratique. Pour devenir comme David, les hommes et les femmes, que même si une armée se dressait contre nous, même si une guerre se déclenchait contre moi, je vais avoir aucune crainte, aucun peur. Ça va pas affecter mon sommeil, je vais dormir quand même. Tu as juste à lire les psaumes, et il sait de quoi il parle. Tu t'en souviens que Saül, le roi d'Israël, cherchait à le tuer avec toutes les armées? Lis le troisième psaume, juste par exemple, ne pas là, mais à la maison. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour vaincre cette crainte et bannir cette crainte avec l'amour de Dieu? Numéro un, habiter continuellement dans la présence de Dieu. Sachez que Dieu est avec vous, et en tant que chrétien, Dieu est en vous. Plus grand celui qui est en vous que celui qui est dans le monde. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. Tout le monde dit, Dieu est avec moi, Dieu est en moi et Dieu est pour moi. On va le dire encore, Dieu est avec moi, Dieu est en moi et Dieu est pour moi. Et si Dieu est pour vous, qui peut être contre vous? Toi plus deux égale une majorité. N'est-ce pas? On continue. Donc on veut pratiquer sa présence. Juste être conscient que Dieu est là, ça devrait aider à bannir la crainte. Numéro deux, contempler les choses avec les yeux de l'esprit. C'est ça que ici le psalmiste a dit. Il a dit pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Je pense que quand on est dans une situation qui, dans le naturel, peut être épeurant, qui pourrait nous faire peur, on a besoin de prendre une décision. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je puisse voir la situation comme tu le vois. Prochaine fois que la facture arrive et tu dis, je ne sais pas comment payer ça, Seigneur, ouvre mes yeux. Montre-moi qu'est-ce que tu vois dans la situation. Peut-être il va te montrer comment mieux gérer les choses. Peut-être il va te montrer que c'est pas grave, tout est sous contrôle, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire. Mais ouvre les yeux de l'esprit. Ça me fait penser à cette histoire de deux rois, chapitre 6, où le prophète et son serviteur sont dans une situation où encore l'ennemi les cherche pour leur faire mal. Et le serviteur se réveille un jour, il sort de la maison, il regarde et il voit toutes les armées de l'ennemi qui sont prêts à les attaquer. Regarde, le serviteur de l'homme de Dieu se leva du bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars, et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? La prochaine fois que vous avez une de ces expériences où vous vous dites, « Qu'est-ce que je vais faire? » Est-ce que ça vous arrive toujours d'avoir des moments dans la vie, « Qu'est-ce que je vais faire? » Et la peur, l'inquiétude, l'insécurité commence à se manifester. Prochaine fois, il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Et c'est là que tu as vraiment besoin de confiance dans ton leader spirituel. Parce que là, tout ce que l'homme, le serviteur, voit, c'est des milliers de soldats, des chars, des chariots, ils sont entourés. Aucune manière de s'échapper. Et puis, il dit, OK, OK? 100, 200, 1000, on ne sait pas combien des centaines, peut-être des milliers de personnes qu'il voyait, et puis il dit 1, 2. Mais ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. OK? 1000, 2. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. C'est parce qu'il regardait avec les yeux naturels et le prophète voyait d'autres choses. Élisée pria et dit, l'Éternel ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Sachez que ce que vous voyez dans le naturel, c'est juste une petite portion de ce qui se passe en réalité. Que vous avez quand même des milliers et des milliers d'anges à votre disposition aussi. Et que le Seigneur Jésus est avec vous. Et le Saint-Esprit habite en vous. Et ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Amen. Mais à chaque fois que vous avez cette expérience, que ferai-je? Qu'est-ce que je vais faire? Comment sortir de ce problème? Dit Seigneur, ouvre mes yeux. Aide-moi à voir. Contemplez. Numéro 3, offrez-lui tous vos soucis. Qu'est-ce que ça vous donne de garder tous ces soucis? Vous savez qu'est-ce que ça vous donne? Des ulcères. Mais si vous donnez ces choses à Dieu, ça n'a pas le même effet sur lui. Savez-vous, j'ai juste une nouvelle. Si vous dites, oh Seigneur, je suis tenté de tomber dans l'inquiétude, il y a une situation difficile. La Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Pourquoi? On a le verset qui s'en vient. Pourquoi? Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. OK, Seigneur, je me décharge de vous. Et savez-vous quoi? Quand vous vous déchargez sur Jésus de tous vos soucis, il ne tombe pas inquiet. Dieu dit, oh, mais maintenant, hein, le Père dit pas au Fils, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, mais je viens de recevoir les soucis de Donald et Alice et oh, ça... Je sais pas, que ferons-nous? Jamais cette réaction chez Dieu. OK? Il est capable de les prendre. Aucun effet. C'est comme l'eau qui coule sur le dos d'un canal. Hein? C'est comme... Tout est réglé. Tout est sous contrôle. Bon, donne-moi tes soucis, le Seigneur dit, et je te donnerai ma provision. On va faire un échange. Tu me donnes tes soucis, je te donne ma force, ma puissance, ma provision et tout mon amour. Je vous aime et moi-même, je vais prendre soin de vous. Ouh, c'est quelque chose, hein? Imaginez si vous pourriez... Vous avez des factures, vous ne savez pas quoi faire avec ça, et Bill Gates arrive chez vous et dit, mais écoute, juste donne-moi vos factures, je vais prendre soin de ça. Ça ne serait pas trop difficile pour lui, vous êtes d'accord? Mais on a quelqu'un de plus grand que Bill Gates. On a le créateur de Bill Gates qui habite en nous. Numéro 4, louez Dieu pour sa parole et mettre votre confiance en lui. On va terminer avec ceci. Mais ça, c'est une chose. Si on veut bannir la crainte, louez Dieu pour sa parole. Et mettez en lui, et mettez votre confiance en lui. Pourquoi je dis cela? Dans ce verset qu'on a lu en psaume 27.1, il dit que je chanterai et je célébrerai l'Éternel. Et j'aime beaucoup le verset 4 de psaume 56 qui dit, je loue Dieu pour sa parole, je mets ma confiance en lui. Comme on dit, je loue Dieu pour sa parole, je mets ma confiance en lui, et je n'ai pas peur. Prochaine fois, vous avez une situation difficile, loue Dieu pour sa parole. Encore. Hein? Vous êtes dans une situation dangereuse, loue Dieu pour psaume 91. Merci Seigneur que je demeure sous l'abri du Très-Haut. Merci, Seigneur, que tu donnes à tes anges la charge concernant moi. Merci, je te loue, Seigneur, que tu as promis de me protéger. Merci, la prochaine fois, tu as des symptômes dans votre corps. Merci, Seigneur, je te loue que par tes meurtrissures, j'ai été guéri. J'ai rien à craindre. Je n'ai pas peur. Que pourrait me faire des simples mortels? Je me confie en Dieu. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Et j'ai dit dans mon note de voix en Romains 8, 31. Peut-être on va prendre le temps de le lire ensemble. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Regarde. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Comment on dit l'amour de Christ? L'amour bannit la crainte. Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et c'est pas la fin de l'histoire, car j'ai l'assurance, mon Dieu, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour. Quel amour? L'amour qui bannit la crainte. Amen. De Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. On va se lever debout, on va remercier le Seigneur pour cela ce matin. Remercions-le pour son amour qui bannit la crainte. Nous sommes comme des arbres plantés près des eaux. Nous ne craignons rien. Alléluia. Merci, Père Céleste. Nous te remercions, Seigneur, pour l'amour qui est répandu dans notre cœur. Et juste avant de terminer aujourd'hui, on va faire qu'est-ce qu'on aime faire tous les dimanches. Je vais donner l'occasion à tous ceux et celles qui sont ici présents d'examiner son cœur, de regarder à l'intérieur de votre personne et de vous poser quelques questions. Première question que je vais vous poser, c'est que est-ce que vous savez sans aucun doute que votre cœur est en règle avec Dieu ce matin? Parce qu'on peut parler d'être libéré de la peur et de la crainte, mais si on ne sait pas sans aucun doute que Dieu habite en nous, on ne peut pas avoir cette assurance. Cette assurance ne vient que à ceux qui sont en relation intime et personnelle avec le Seigneur Jésus. Donc ce matin, j'aimerais vous poser la question. Si vous quittez le lieu ce matin, vous partez d'ici et votre cœur arrête de battre, votre esprit quitte votre corps, savez-vous sans aucun doute que vous allez passer l'éternité avec Jésus? Si vous ne le savez pas, aujourd'hui j'ai une bonne nouvelle. Le salut, c'est pas une chose qu'on peut mériter. C'est une chose qu'on peut hériter et recevoir par la grâce. C'est un don gratuit. Et la Bible dit que si tu confesses avec ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, que tu seras sauvé. Amen. Donc, ce matin, pense à ça. Vous dites, mais je suis une bonne personne. Il n'y a pas un être humain ici sur la terre qui est assez bon pour aller au ciel sur ses propres mérites. Tu dis, mais je vais à l'église. Aller à l'église, ça ne suffit pas. On peut pas juste aller à l'église et devenir enfant de Dieu. Tu dis, mais je lis la Bible ou je fais la prière. Ça, c'est pas assez non plus. La seule manière de venir à Jésus et de devenir enfant de Dieu, c'est de croire de tout ton cœur que Jésus est le Fils de Dieu. De confesser avec ta bouche qu'à partir d'aujourd'hui, qu'il va être ton Sauveur et ton Seigneur, en croyant qu'il est ressuscité d'entre les morts. Donc aujourd'hui, je vous pose la question. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aimerait prendre cette décision aujourd'hui? Dire, oui, je ne veux pas partir sans savoir que j'ai une place réservée pour moi au ciel. Jésus a dit, si tu me confesses devant les hommes, je te confesserai devant mon Père. Mais si tu me renies devant les hommes, je te renierai devant mon Père. Moi, je vais compter à trois. Quand je compte à trois, je vais même taper ma main. Si vous êtes là, vous voulez donner votre vie à Jésus-Christ ce matin. Juste lève la main haut dans l'air. N'ayez pas peur des hommes ce matin, de qu'est-ce qu'ils vont penser, parce que ce n'est pas eux qui vont être assis sur le trône. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui a besoin de donner sa vie à Jésus? Un, deux, trois, levez la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Levez la main haut dans l'air. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je pense qu'il y a sûrement quelques personnes. Si tu me confesses devant les hommes. Sinon, c'est Dieu seulement qui sait exactement qu'est-ce qui se passe dans ton cœur. Mais j'aimerais qu'on fasse cette prière ensemble, toute la congrégation. On va prier ceci. Père Céleste, merci que j'ai l'occasion de te connaître. Que je suis heureux d'être ton enfant. Je veux être comme un arbre planté près des courants d'eau. Merci Seigneur, que parce que tu es en moi et tu es avec moi, que j'ai rien à craindre. L'amour parfait de Dieu bénit la crainte. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je vous aime. Que le Seigneur vous bénisse. Ce mercredi soir à 19h, on est ici. Et je veux vraiment voir tout le monde, si possible, parce qu'on fait une série importante. Comment éviter et échapper les pièges du diable. Donc, remercions le Seigneur pour sa présence ce matin et on se verra mercredi soir. Amen.